Alors, de quoi allons-nous parler dans ce troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1966? De la plus dramatique catastrophe industrielle d'après-guerre, de la révélation Mireille Mathieu, de la sortie du film français du siècle, La Grande Vadrouille, et de Barbara, qui cartonne.
1966, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Le 4 janvier 1966, au petit matin, au sud de Lyon, boum ! Une immense explosion secoue toute la région. Et une boule de feu s'échappe du site pétrolier de la ville de Fézin.
C'est ici à Fézin, pour l'instant, la plus incroyable confusion. Fézin est un petit village situé à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon, sur la rive gauche du Rhône. Un petit village que les vacanciers connaissent bien lorsque la Nationale 7 traversait le pays. Un peu plus bas, au-dessous de Fézin, se trouve la nouvelle autoroute Lyon-Valence et en bordure de l'autoroute, soit à peu près à 700 à 800 mètres ou 1 km à vol d'oiseau du centre de Fézin, se trouve donc la raffinerie. Ces chiffres, ces distances sont importants car elles permettent d'évaluer la violence avec laquelle la déflagration a secoué le petit pays. En vérité, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé pour l'instant et on ne sait surtout pas combien de victimes a fait cette explosion, cette série d'explosions plutôt.
Les journalistes sur place ont du mal à connaître le bilan de ce drame. Personne ne peut évidemment approcher de la zone qui est toujours en feu.
Toutes les ambulances de la région, naturellement, ont été réquisitionnées. Le plan Orsay est appliqué. Toutes les ambulances sont rassemblées sur les différentes places de Fézin, mais elles restent là impuissantes, car elles ne peuvent pas approcher. On ne peut pas approcher de l'immense brasier. Tout au plus peut-on de loin essayer de limiter les dégâts, d'éviter qu'il y ait d'autres explosions, car il n'y a pas eu que l'explosion de 8 heures. Il y en a eu encore deux autres, et récemment, encore une explosion moins violente, et s'est produite du côté des bureaux.
Le reporter d'Europe numéro 1 parvient à interpeller des ouvriers de la raffinerie et des pompiers qui se trouvent sur place, alors que plane toujours la menace d'une explosion.
Il y avait une fuite de gaz, puis quelqu'un en passant en voiture a fait explosion. Et depuis, on n'a pas pu arrêter. Tous les services de secours sont venus de Lyon, de Givors, de Vienne.
Et alors, il vient de se produire à nouveau une explosion maintenant, il y a quelques instants. Et
ça fait la troisième qui se produit parce que c'est les réservoirs de gaz qui explosent.
Les réservoirs de gaz explosent les uns après les autres. Alors pour le moment, je suppose qu'on essaye de les isoler, de les protéger.
C'est ça, mais ce qu'on a peur, c'est que le réservoir de super et d'essence qui se trouve là à côté, vous voyez, à côté de la torche.
Ils sont menacés alors.
Ils sont menacés, et même toute la raffinerie est menacée pour le moment.
La raffinerie occupe combien d'ouvriers à peu près en tout?
Elle occupe, c'est par équipe, il y a service de nuit, de jour, environ 600 personnes. Tout le monde, maintenant ils ont évacué tout le personnel presque.
Oui, alors on ne peut pas approcher, c'est d'accord, mais vous avez des renseignements vous, monsieur?
Oui, j'arrive du centre de Fézin d'abord. Et la dernière explosion, il n'y a plus personne dans les rues, tout le monde est évacué. Il y a eu des explosions, les vitres ont été cassées, c'est...
Est-ce qu'il y a des brûlés?
Oh, il y en a, c'est un cagurbe. Ils en emmènent toutes les minutes. Il y a beaucoup de pompiers de brûlés. Comme cela.
Voilà, voilà, voilà,
tiens, regardez.
Voilà. Encore un autre qui
elle a pas sauté encore, vous voyez.
Elle a
pas sauté,
elle prend flamme, là. Sans flamme.
Une flamme immense, une flamme monte dans le ciel maintenant.
Elle explosera pas celle-là.
Ça, c'est l'essence.
Oui, c'est parce que non, c'est pas une gaz, c'est l'essence.
Quand ça explose, ça fait un champignon d'une hauteur de 300-400 mètres, même plus.
C'est la première fois qu'on voit ça ici.
En ce moment, c'est la confusion la plus totale qui règne autour de cette raffinerie en feu. Où est l'officier? Vous êtes en renfort ici?
Oui, nous venons en renfort, oui.
Il y a un paquet de blessés. Ils en avaient appris 200 à 250 blessés.
Ils ont ramassé pas mal de blessés. Hein.
Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, c'est incalculable.
Descendez! La plus grande confusion règne. Dans le ciel tournent les hélicoptères. Un peu partout, on entend les trompes et comme des voitures de pompiers ou d'ambulances. Et toujours, en bas dans la vallée, s'élèvent les deux immenses colonnes de fumée qui montent droit vers le ciel. L'horloge du clocher est arrêtée à 6h12, heure à laquelle se produisit la première explosion.
À Fézin, le spectacle est désolant. Les maisons ont été soufflées.
À Fézin, ça brûle toujours. La menace reste grande, car trois sphères pleines de gaz, trois sphères sont environnées par les flammes et les pompiers s'efforcent de les protéger. Toutefois, il n'y a pas eu de nouvelle explosion. On attend l'arrivée de deux avions citernes Catalina qui ont fait escale à Montélimar pour s'y ravitailler en eau. On attend aussi l'arrivée de marins-pompiers et d'un corps de spécialistes des des hydrocarbures venus ceci de Paris. Dans le village, le PC est installé à la mairie où les sinistrés ne cessent de défiler. Il va falloir reloger beaucoup de monde ce soir et les communes voisines se sont proposées pour en accueillir le plus possible. Des voitures à haut-parleurs circulent, appelant chacun à conserver son sang-froid. Le ciel est maintenant envahi par une fumée d'un noir d'encre. C'est comme si un monstrueux orage s'apprêtait à crever sur la plaine. On ne sait toujours rien, très exactement, du nombre de morts ou de disparus. Les chiffres varient toujours entre 20 et 60, mais pour l'instant, aucun communiqué officiel n'a été donné par la préfecture de l'Isère.
Quelques heures après le début de l'incendie, alors que les flammes ravagent toujours le site industriel, le roule-tabille d'Europe numéro 1, Georges Dodon, s'approche au plus près du feu et des secours.
Je suis en ce moment à moins de 150 mètres de l'usine Rhône-Alpes qui brûle. Devant moi, de longues flammes rouges de 15 à 20 mètres de haut qui s'élèvent dans le ciel et au-dessus, d'immenses tourbillons de fumée grise et noire qui montent lentement.
Trois carbonisés que l'on vient de découvrir un petit peu plus loin.
Ah là, vous venez de retrouver trois corps carbonisés en ce moment-là.
Oui. Ils ne sont pas identifiables.
En ce moment, il y a une quinzaine de lances immenses en batterie, qui arrosent sans cesse les réservoirs intacts et qui contiennent plusieurs milliers de mètres cubes de gaz. Toute la journée, les pompiers ont arrosé sans cesse ces cuves pour les refroidir, pour éviter qu'elles n'explosent, comme les cinq autres ce matin. Je suis maintenant à moins de 100 mètres, je peux vous assurer qu'il fait très très chaud là où je me trouve. Hormis les pompiers qui se trouvent ici, les sauveteurs, les pompiers de Paris surtout, qui sont descendus en quelques heures de Paris cet après-midi, bien hormis ces pompiers, il n'y a personne ici. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de danger, monsieur, à être là?
Pour le moment, on ne peut pas dire encore, hein, parce qu'il y a encore des cuves là derrière qu'on a arrosées pour refroidir, maintenant le reste.
J'avoue, je ne suis pas très rassuré de voir ces flammes à moins de 50 mètres de ces cuves là. Il n'y a vraiment aucun danger.
Non, parce que là, avec les grosses lances qu'on met, on refroidit en même temps. Comme ça,
oui. Il y a suffisamment d'eau ici?
Oui, Grenoble est pris là, directement dans le Rhône, avec le grand puissance.
Là où ça brûle encore, il y a des carcasses de réservoirs noircies, tordues, d'où de temps à autre s'élèvent des flammes qui disparaissent. On dirait, si vous voulez, d'immenses feux follets qui courent ici et là. Non, je suis à moins de 50 mètres de l'incendie. C'est très 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 chaud. Pourtant, ici ce soir dans la région de Lyon, le thermomètre marque moins 3.
Il fait nuit. Les pompiers luttent contre ce feu depuis plus de 12 heures. Ils tentent d'éviter la propagation en refroidissant les cuves de gaz du site.
Et vous pensez éteindre quand ce feu?
Écoutez, je pense qu'il ne sera pas éteint certainement avant demain dans la matinée.
Ça sent mauvais. Ça sent très 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 mauvais. Ici, je voudrais m'approcher assez près. Il y a maintenant environ 25 mètres de ces flammes. Je vais tendre mon micro, peut-être entendrez-vous le bruit que fait le feu. En ce moment, il y a deux pompiers qui ramènent sur une civière un corps enveloppé dans une couverture. Le corps est complètement carbonisé, on ne le voit pas bien sûr, mais sous l'action des flammes, eh bien, il a complètement rétréci. Il n'est pas plus grand que le corps d'un enfant de 12 ou 14 ans.
Une fois l'incendie circonscrit, le reporter d'Europe numéro 1 retrouve des habitants de Fezin qui ont vécu cette série d'explosions de la raffinerie.
Monsieur Ramillet, vous êtes le maire de Fezin.
Oui,
d'ailleurs, oui. Je vois que vous avez un bandeau sur la tête.
Oui,
vous avez
été blessé ce matin, oui.
Comment cela s'est-il passé?
Eh bien, je suis descendu dans un quartier qui était particulièrement exposé. J'ai descendu avec mon adjoint, M. Kaya, et je me suis retrouvé au point le plus proche de la cuve qui a explosé en compagnie d'un reporter du Progrès. À ce moment précis, quand nous sommes arrivés là-bas tous les trois, à ce moment précis, la cuve a éclaté.
Et vous avez été littéralement soufflé?
Nous avons été soufflés tous les trois, nous avons été projetés à terre et dispersés, si vous voulez, et nous ne nous retrouvions pas.
Alors vous avez été blessé à la tête?
J'ai été commotionné et brûlé, oui, un peu brûlé.
Tu as entendu le bruit de l'explosion?
Oui.
Quel âge as-tu?
7 ans.
Et tu étais toute seule? Non.
Non.
La maison a été abîmée chez vous?
Oui. L'ensemble de nous, elle est tout tombé sur notre lit. Le plafond.
Le plafond de ta chambre?
Oui.
Il est tombé sur ton lit?
Oui.
Et toi, tu n'as pas eu de mal?
Non, parce que ma mère, elle m'a vite appelé. Elle a dit, réveillez-vous vite parce qu'il a le feu.
Le bilan de l'explosion de la raffinerie de Fezin est dramatique. 11 pompiers et 7 salariés sont morts. Il y a plus de 90 blessés. Et l'enquête interne permet d'établir que la catastrophe est survenue à la suite d'une erreur de manipulation sur une cuve de stockage de gaz. Un responsable de la raffinerie s'en explique au micro d'Europe numéro 1.
Il faut bien savoir qu'une raffinerie ne peut pas être isolée. Elle doit être en contact avec l'extérieur et doit avoir la possibilité d'évacuer, notamment par camion, les produits finis destinés à la consommation. Et on trouve dans toute raffinerie, à proximité, une route plus ou moins importante et il y a toujours un trafic important de camions qu'il est impossible d'éviter.
Les sphères de stockage ont explosé les unes après les autres à la manière de ces pétards de 14 juillet reliés par une seule mèche.
Effectivement, il y a eu plusieurs explosions. D'après les règles de sécurité, il est prévu de laisser un espacement entre chaque sphère et cet espacement doit permettre d'éviter la contagion de tout incendie. Ces règles ont bien entendu été observées dans le cas de Fezin, mais malheureusement, les garanties qu'elles offrent n'ont pas été suffisantes.
Étonnant tout de même qu'un site si sensible se trouve à peine à quoi 500 mètres de la ville de Fezin et de ses 6000 habitants.
Fort heureusement, parmi les victimes, il n'y a aucun civil. Je sais que le village a eu à souffrir d'un certain nombre de dégâts matériels, mais je pense que la distance était suffisante pour assurer la sécurité des personnes.
Fezin est la première catastrophe industrielle d'une telle ampleur en France. Et de ce drame naîtra ce qu'on appelle une culture du risque industriel.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1966.
Le 8 décembre 1966, la grande vadrouille avec Louis de Funès et Bourville sort sur les écrans français. Et certains critiques, toujours peine à jouir, se lâchent. La grande vadrouille serait une grosse boule. Le Nouvel Observateur. Ce film est une somptueuse misère, une médiocrité richissime, rageant de voir des comédiens aussi doués pour le comique galvauder leur talent comme ça. Les cahiers du cinéma, les gags sont téléphonés, un quart d'heure à l'avance, c'est une consternante farce rétrograde.
Where is the big moustache?
I don't know. And if you don't know, I don't know, no?
I don't understand.
You come with me to pick up Peter.
No, you come with me to pick up Macintosh.
No, you.
I beg your pardon.
And if you don't come, I... Ah, merde alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça, merde alors? But alors, you are French.
You are not English?
Pour tous ceux qui ont vécu en ermite depuis plus de 50 ans, je rappelle ici le pitch du film La Grande Vadrouille. Bourville et Louis de Funès incarnent un gentil peintre en bâtiment et un nerveux chef d'orchestre de l'Opéra de Paris qui ne se connaissent pas et qui vont se retrouver à aider malgré eux des aviateurs britanniques à se rendre en zone libre.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est moi. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... ça, c'est... comme si, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citrillon peintre, je n'ai pas orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 17. Hop.
Et ce qui est rassurant, c'est que les spectateurs vont faire fi des critiques. Dès le premier jour, des milliers de Français se pressent dans les cinémas. Bourville et de Funès passent en direct sur Europe numéro 1 pour une émission spéciale à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Parce que c'est là que se situent les studios de cinéma de la Paramount et les deux vedettes jouent totalement le jeu.
Bonjour Louis, ça va ?
Ça va.
Oui, t'es toujours artiste ?
Oui.
Ah, dis donc. Ça m'étonne toujours, ça.
Ah oui?
Enfin, merci. Il en faut pour tous les goûts. Hein.
Merci.
Alors, tu es là au studio Saint-Maurice?
Oui.
Qu'est-ce que tu tournes?
Je tourne un Fantomas.
Ah bon? Je crois que tu l'avais déjà tourné, ça.
On fait un troisième Fantomas.
Ah bon? C'est pas un film que tu refais parce qu'il était pas bon, non? Ah bon? J'ai une peur à un moment. J'ai dit, mais ils vont pas refaire ça au prix que ça coûte.
Non, c'est un autre. C'est un autre.
Ah bon? Et puis toi,
avec toutes les bonnes choses qu'il y avait dans les deux autres, les armées là.
Ah oui, voilà. C'est un amalgame, quoi. Et alors, toi, tu ne me demandes pas ce que je fais, tu t'en fous, quoi.
Bah, tu joues, je sais pas quoi, d'ailleurs, je me rappelle plus.
Mais je joue, quoi.
Qu'est-ce que tu joues? Wawa.
Wawa, oui, un chef d'homme. Je suis à... Je rapporte des devises à la France en ce moment, je suis en Belgique.
Ah bon?
Mais oui. Ça marche.
C'est bien, j'ai une bonne, ça marche bien.
Pendant 30 minutes, Bonville et De Funès sont tout seuls à l'antenne d'Europe Midi, l'émission qui est habituellement présentée par Jacques Paoli.
Allez, interviewe-moi un peu, fais un peu ton boulot, parce que, tu sais, Europe va te résilier. Hein. Allez. Ah. Alors, je t'écoute. Oh là là. Oh, il est pas doué.
Non, mais non, ça je reconnais que je suis pas doué.
Heureusement que
oui.
Europe Midi, c'est pas à ce rythme-là, ça, les informations, on ne saura pas grand-chose.
Allez, au revoir.
Fais ton petit Paoli.
Ah ouais, non.
Merci, attends. Pourquoi pas.
Allez. Il dirige très bien, d'ailleurs.
Oui.
Il devrait être là s'il était là à ma place.
Oui, allez, vas-y.
Alors, voyons, que font tes enfants? Attends, quand bon. Ça, parce que je suis en train de lire un bout de papier, attends. Le fond des enfants, l'après-midi en général, d'abord l'après-midi.
Ah oui, j'avoue que la question est posée avec un naturel, on n'aurait pas l'impression que tu lisais.
Non, je recommence, tu viens, bang. Que font des enfants l'après-midi en général? Allez.
Oh bah non, c'était bien. D'un seul coup.
Réponds vite, hein.
Oui, ben en général, j'en ai un qui va à l'école et puis l'autre qui va jouer au football.
Et t'as vérifié?
Oui, oui. Parfois je le conduis au bois, il joue au football.
Bien évidemment. Les deux compères évoquent la sortie du film et leur souvenir du tournage du Cornion, le dernier film qui les réunissait.
Tu étais hier soir à la première de La Grande Vadrouille.
Oui. Ah, j'ai eu beaucoup de succès, oui.
Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient en sortant, les gens?
Ah, De Funès.
Ah bon?
C'était gêné un peu, j'étais un petit peu gêné, quoi.
Non, mais blague à part.
Oui, très bien.
Est-ce que tu crois que ce film... Enfin, personnellement, toi, est-ce qu'il te plaît autant que Cornio?
Il me plaît plus.
Ah bon?
Oui. C'était dur à faire au-dessus.
Moi, je crois qu'il est mieux parce que... Là, je parle sérieusement.
Oui.
Parce que l'histoire est quand même une histoire dramatique.
Moi aussi, je parle sérieusement. Tout ce que je disais, De Funès, c'est pas vrai.
Ah bon?
C'est ce qui me barbait, d'ailleurs. Je disais Bourville, et moi, j'entendais rien. De Funès, on ne parlait pas. Enfin, comme ça, j'en ai parlé.
Mais oui, voilà. Oui. Oui, et pour en revenir au sujet, oui. Je pense que le sujet est plus intéressant et plus dramatique. Il est traité d'une façon comique, naturellement, mais comme le sujet est quand même un sujet sérieux, il montre combien les hommes sont assez peu raisonnables pour se mettre dans des situations aussi ridicules avec des guerres.
Bourville et De Funès préfèrent La Grande Vadrouille au Cornion, et le public aussi. La Grande Vadrouille reste 31 semaines en tête du box-office, 17 267 000 spectateurs, 34% de la population française, du jamais vu.
Menez, voyons.
Je ne pourrais jamais m'y faire, moi.
Mais si, allez, faites pas de chichi. Ah, vous êtes bien le petit Stanislas, hein?
Écoutez, je vous en prie. Hein. Rabattez-moi.
Pardon. Vous n'êtes pas marié, vous?
Non.
Moi non plus. Mais ça va pas tarder, hein? Parce que Juliette, la guerre a du bon, et vous? À propos, oui. Je voulais vous demander, comment vous me trouvez physiquement?
Non, il est tard, il faut dormir, hein? Allons!
Lors de cette émission spéciale du 8 décembre 1966 sur Europe numéro 1, Bourville et De Funès rient beaucoup ensemble à l'antenne. Mais pas que.
Il y a une chose qui va vous paraître assez paradoxale, c'est que, en dehors de notre travail de cinéma, nous ne nous voyons jamais. Jamais il n'est venu chez moi et jamais je n'ai été chez lui. Une fois seulement, parce que je l'avais ramené chez lui, il n'avait pas de voiture ce soir-là. Et
une fois arrêté devant sa porte, il m'a dit « Bien, viens, je vais te montrer mon appartement ». C'est la seule fois où je suis allé chez lui. Et nous ne faisons pas ça par calcul. Ce n'est pas notre intention de ne pas nous voir, mais c'est le hasard qui n'a pas voulu que nous rencontrions en dehors des heures de travail.
Cette émission est aussi l'occasion de découvrir les deux vedettes plus intimement. Et c'est un régal.
Mais les enfants, alors par exemple, moi les miens, ils adorent les Animals,
ah oui,
les Rolling Stones, Los Bravos.
Ah, dedans.
Ah oui.
Rien que des...
Mais j'aime bien aussi, moi, j'aime beaucoup.
Oui, oui. Ah, moi,
j'aime beaucoup cette musique moderne. C'est très jeune et puis ça me donne un petit coup de sève nouveau. Voilà.
Malheureusement, je n'ai pas de discothèque. Je suis dans une maison de disques depuis 20 ans. Je n'ai pas tous mes disques. Et puis alors, c'est dans le désordre.
J'aime aussi.
Les pochettes sont d'un côté, les disques de l'autre.
Ah, c'est ça.
Quand il faut trouver quelque chose. Puis il y a de la poussière dessus. Enfin, mais d'ici peu, ce sera fini, les disques. Ce sera des petites cassettes.
Ah, c'est très bien, oui.
Et dans un volume réduit, qui pesera 100 grammes, 200 grammes, tu auras 15 ou 20 chansons. Ça, c'est formidable. On met ça dans sa poche.
Et ça passera sur une chaîne de fidélité, alors?
Ben oui, tu peux faire passer sur une chaîne de fidélité. C'est formidable, ça. Alors, dis, essuie ton nez, puis dis au revoir, madame, au revoir, voilà. Monsieur.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Au revoir.
C'était les Rolling Stones, idole des jeunes en 1966, avec Paint It Black.
1966, On de la raconte sur Europe 1.
Après la Grande Vadrouille, un autre film français revient sur la Seconde Guerre mondiale, dans un registre beaucoup plus sérieux. Paris brûle-t-il, de René Clément, qui raconte les faits héroïques de la résistance française. Au générique, un casting de réputation mondiale. Kirk Douglas, Alain Delon, Orson Welles et Jean-Paul Belmondo notamment. Le film est porté par 7 chansons de Maurice Jarre.
Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre.
Et qui est l'interprète de cette chanson Paris en colère? Une jeune avignonnaise de 19 ans qui ne cesse de monter, Mireille Mathieu.
C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière après la tempête. Paris pleure.
Avec cette chanson et ce film au succès mondial, la notoriété de Mireille Mathieu explose en France et partout dans le monde. Sur Europe numéro 1, en octobre 66, les parents de Mireille Mathieu commentent le succès de leur fille, aînée d'une ribambelle de 14 enfants.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le succès de Mireille, dans votre vie de tous les jours ?
Vous savez, il ne faut pas faire la grosse tête, il ne faut pas tout de suite se... Hein. On est très fiers de notre Mireille.
Bon, si jamais un jour Mireille n'était plus ce qu'elle est aujourd'hui, ça serait une très grosse déception pour vous ?
Pour moi, je dirais, sûrement, là, vous me posez une question là, un peu délicate, là. Sûrement, ça me ferait la peine, mais le plus que ça fera la peine, ce sera Mireille. Hein. Mireille, c'est sa vie. Franchement, c'est sa vie.
Dans un tout autre style, un autre film marque le début de l'année 1966. Un homme et une femme, de Claude Lelouch. Une histoire romantique entre un veuf et une veuve, interprétée par Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal ?
Pourquoi pas ?
C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Quel courage.
Début mai 1966, juste avant d'aller présenter son film au Festival de Cannes, le jeune Claude Lelouch passe au micro d'Europe numéro 1.
J'attends impatiemment de voir la réaction des gens devant un homme et une femme, comparativement justement aux réactions qui avaient eu lieu sur mes précédents films et qui avaient été très 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 controversées.
Alors pour Claude Lelouch, être à Cannes dans quelques jours, ça change quelque chose au personnage, ça change quelque chose à l'homme ou au réalisateur?
Non, ça change rien. Ce qu'il y a, c'est que ça va me permettre de pouvoir envisager les projets auxquels je pensais depuis très longtemps et que ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai envie de faire. Enfin, pour moi, actuellement, c'est un merveilleux rêve.
À Cannes, le film séduit. Le style Lelouch, caméra à l'épaule, qui tournoie autour des comédiens tel un manège infatigable en voûte, c'est le style Shabada-bada. Résultat, Palme d'or pour un homme et une femme.
Il y a un mois, vous ne vous attendiez sûrement pas à avoir un prix à Cannes.
Ben, il y a un mois, on ne savait même pas qu'on allait être sélectionné. Donc c'est la grande surprise, c'est formidable. Il y a Pierrot, Jean-Louis et Anouk autour de moi.
Je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde vous traînait dans la boue, pratiquement.
Oh oui, il n'y a même pas 2 ans, il y a tout simplement 6 mois. Après l'histoire d'une fille et des fusils, on se demandait comment on allait remonter la pente.
Comment, d'un seul coup, s'est-on rendu compte de votre talent ?
Ben, vous savez, je sais pas, c'est difficile de répondre à une question pareille. Tout ce que je sais, c'est que tous les gens de l'équipe ont fait le maximum pour faire ce film à des conditions, non pas draconiennes, mais très basses, quoi. Enfin, il y a... Ça a été formidable, quoi, de la part de Jean-Louis, d'Anouk, qu'ils ont accepté de faire le film dans des conditions qu'ils n'auraient jamais fait auparavant, je crois.
Vous avez dépensé combien, franchement, pour faire ce film ?
Un peu moins de 100 millions.
100 millions ! Claude Lelouch parle ici, évidemment, en ancien franc. Pour avoir un ordre d'idée, la grande vadrouille a coûté 13 fois plus cher.
Vous vous attendiez à ce succès, Jean-Louis Trintignant ?
Eh bien sûr ! Depuis le premier jour où Lelouch m'a raconté l'histoire, j'étais sûr que ça allait être énorme.
En lisant le scénario, simplement ?
Non, j'ai pas lu, il m'a jamais donné un scénario à lire, mais quand il m'a raconté l'histoire, déjà je savais que ce serait formidable.
Ah oui, mais vous êtes quand même un comédien chevronné, vous avez l'habitude de travailler sur des scénarios bien établis.
Oui, mais quand on connaît Lelouch, il vous emporte dans un tel enthousiasme, une telle folie comme ça, qu'on ne peut pas ne pas marcher, ou alors on est complètement imbécile. Il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'il est caméraman.
Oui.
Et ça, c'est quand même très rare dans le cinéma, qu'un metteur en scène soit en même temps caméraman. Et c'est très important parce que finalement, il arrive à avoir des choses dans son film qu'il ne pourrait pas avoir s'il ne tenait pas la caméra, parce que le temps qu'il dise à un caméraman « Vas-y, filme ça », ce serait passé, tandis que lui, il prend tout ce qui arrive, il a un scénario très écrit et en même temps, en tenant la caméra, il se permet d'inventer au cours de tournage ce qui est formidable.
Autre sortie cinéma de 1966, beaucoup plus confidentielle, mais très polémique, La religieuse, qui raconte la vie d'une jeune femme qui devient religieuse contre son gré. Derrière la caméra, Jacques Rivette, cinéaste de la nouvelle vague. Le réalisateur a eu le plus grand mal à monter son film. Avant même le premier tour de manivelle, la présidente d'une association de nonnes qui s'appelle l'Union des supérieurs majeurs de France a écrit au président de la République, le général de Gaulle. « Mon général, il s'agit d'un film blasphématoire, c'est honteux, ça déshonore toutes les religieuses. » Et le président de Gaulle n'est pas insensible au sujet, son épouse tante Yvonne ayant fait ses études chez les dominicaines. Ce projet de film la révolte. Résultat, l'État refuse à Jacques Rivette l'autorisation de tourner dans les monuments historiques. Mais le film s'est fait quand même.
Madame, votre mère a promis à Monsieur Simonin de ne pas vous revoir, mais vous pouvez lui écrire aussi un crayon.
Maman, je vous demande pardon. Ordonnez de moi tout ce qu'il vous plaira. Si c'est votre volonté que j'entre en religion, je souhaite que ce soit aussi celle de Dieu.
Le film se fait, mais le secrétaire d'État à l'information Yvon Bourges en interdit la distribution. Toutefois, le film est projeté au Festival de Cannes et Jacques Rivette, le réalisateur, s'étonne de cette censure au micro d'Europe Numéro 1.
Que pensez-vous de la décision du ministre ?
Je la trouve absurde. C'est empêcher le spectateur de 1966 d'être juge de faits réels qui se passaient dans la société d'il y a deux siècles exactement, puisque le livre de Diderot date de 1760.
Qu'éprouve un metteur en scène quand on interdit la projection d'un de ses films ? Un sentiment de révolte ?
Oh, la révolte est un sentiment facile. Non, moi j'éprouve plutôt le sentiment d'absurde. Si M. Bourges est un homme logique, il faut à ce moment-là interdire aussi le livre de Diderot. Il faut même retirer Diderot du programme des licences des élèves. Il faut vite le traiter comme on traite le marquis de Sade. Enfin, il faut traiter Diderot en paria.
Mais vous pensez que cela risque de troubler certaines consciences en France ?
Honnêtement, je ne le pense pas. La religieuse n'est pas du tout un livre bassement et sottement anticlérical comme on essaye de le faire croire depuis un siècle et demi. C'est un livre au contraire extrêmement clair, extrêmement logique, qui n'attaque absolument pas les dogmes catholiques, qui ne met absolument pas en cause les institutions catholiques, et qui d'ailleurs n'a jamais été mis à l'index par le Vatican, alors que beaucoup d'autres livres de Diderot l'étaient.
Le film sortira finalement un an plus tard, après une longue bataille juridique, et il connaîtra un joli succès en salle, en tout cas pour ce genre de film d'auteur. La censure, finalement, a fait la publicité du film.
On m'aurait proposé le film. Après l'avoir visionné, compte tenu de la clientèle actuelle de mes salles, je l'aurais refusé, parce qu'il n'a aucun intérêt pour la clientèle actuelle. À l'heure actuelle, je ne conviens pas à ma clientèle, mais vu la publicité, je le prendrai.
1966, On de la traconte sur Europe 1.
Début 1966, Barbara a 36 ans, elle est en haut de l'affiche, mais en vérité, c'est une toute jeune vedette.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Barbara a percé dans la chanson après des années de carrière au cabaret. Et elle évoque sa récente éclosion au micro d'Europe numéro 1 et de Jacques Ourévitch.
Je crois que
Moi, il faut 10 ans, oui, merci. Il faut 10 ans pour faire ce métier, pour apprendre. Moi, je ne trouve pas que les choses aient été difficiles. Elles ont été longues, oui, peut-être, mais c'était normal. Tout dépend comment on fait ce métier. Moi, je ne me plains pas du tout de cette époque-là. J'ai fait mes classes et je les fais encore, parce qu'on apprend tous les jours, vous comprenez, sur une scène. C'était normal qu'il y ait ce temps-là, et les choses sont bien comme elles sont maintenant. Ce qui est merveilleux, c'est que justement, les choses sont arrivées comme jamais. Et puis j'ai eu autour de moi des gens qui m'ont aimé, j'ai eu une équipe de gens qui m'a, si vous voulez, accouché, enfin je veux dire, et tellement d'amour et de patience, et à ces gens-là aussi je devais ça. Les gens qui m'entourent, les gens avec lesquels je travaille sont des gens extraordinaires, et c'est eux aussi, parce que le succès ça n'est pas seul, on ne fait rien seul, et si vous voulez, nous avons réussi ça tous ensemble.
Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. 6 000 arrêts, 6 000 arrêts, 6 sols do fa. 6 000 arrêts, 6 000 arrêts, 6 sols do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. 6 000 arrêts, 6 000 arrêts, 6 sols do fa.
En décembre 1966, Barbara retrouve son public pour 3 semaines dans la salle parisienne de Bobigny. Et comme l'année précédente, c'est à guichet fermé.
Pour moi, chanter, c'est mon second souffle. Et si vous voulez, c'est une religion. Pour moi, c'est ma religion. Chanter, c'est ma façon de prier, si vous voulez.
Au début, ont été difficiles. Il a fallu travailler longtemps avant de connaître le grand succès.
Vous savez, d'abord, il n'y a pas de succès. Le succès, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le succès existe au soir. Mais le lendemain peut parfaitement tout annihiler. Annihiler, c'est français, je ne sais jamais. Tout défaire, vous comprenez? Chaque jour est un recommencement. Oui, je sais, c'est assis sur... C'est-à-dire que le jour où vous entrez en scène, avec un nom, vous n'y entrez pas de la même manière. Vous y êtes attendu. Je sais, c'est à ça que vous pensez.
Il y a un autre phénomène, c'est que Barbara a fait 3 semaines à Bobino récemment. Il y a 5 ans, Barbara chantait déjà. Est-ce qu'elle aurait pu faire 3 semaines à Bobino? Ah,
bien sûr que non, mais c'est ça que vous appelez, le succès, évidemment. Mais à la fois le succès, on dit aussi quelquefois, mais alors tout va très bien maintenant, ça va bien, vous n'avez pas peur. C'est pas vrai, plus les choses vont, et plus, c'est angoissant, ça n'est plus la même angoisse, mais plus on a peur. Moi, il n'y a pas un soir où je chante et où je me demande, je m'étonne toujours qu'il y ait du monde d'abord, qui vienne me voir, et je me demande s'il va y avoir du monde. C'est fou! Cette chose, c'est très angoissant. Et puis il ne faut pas décevoir, parce que les gens attendent de vous tellement de choses. Le premier soir justement où je suis entrée sur scène à Bobino, là, en vedette, enfin genre hors du mot, mais c'est comme ça. C'était une chose terrible, parce que c'était, il fallait, d'abord il y avait une journée, il y avait tellement de choses autour, on attendait ça, que je n'avais pas le droit de décevoir. Vous comprenez, c'est très grave. Enfin c'est grave et c'est pas grave et c'est rien, parce que finalement tout ça n'est rien du tout.
Au cours de cet entretien, Barbara raconte comment elle vit son métier.
Au fond, je déteste ce métier, si vous voulez, d'une certaine manière, tout ce qu'il y a autour de ce métier. Ce que j'aime plus que tout, c'est être en scène, mais on ne peut pas vivre en scène. Vous comprenez, c'est très difficile. Moi, j'y vis déjà le maximum, c'est-à-dire que quand je chante, j'arrive à 5 heures et je ne bouge plus du théâtre jusqu'à minuit, enfin, je veux dire, jusqu'au moment où je sors de scène.
Je sais ta bouche sur ma bouche, je sais tes yeux, ton rire, ta voix, je sais le feu quand tu me touches et je sais le bruit de ton pas. Je saurai sur moi des vêtus entre mille, quelle est ta main nue, mais simplement dire je t'aime. Je ne sais pas, c'est trop bête. Je vais le dire, c'est rien, ces deux petits mots-là. Mais j'ai peur de te voir sourire, surtout ne me regarde pas. Tiens, au piano, je vais le dire, amoureuse du bout des doigts. Au piano, je pourrais le dire. Écoute-moi, regarde-moi. Je ne peux pas, je ne sais pas. La 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 la.
Quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous pensez qu'un jour Barbara aura des fans qui se rouleront par terre, qui lui arracheront ses boutons?
Non, jamais, je pense pas, mais je vais vous étonner, j'ai des fans. Vous comprenez, ce sont les mêmes gosses qui vont voir Adamo, qui vont voir Hallyday. Ce sont les mêmes gosses qui viennent me voir et qui disent on aime Hallyday, on t'aime et pour telle et telle raison. Et ils viennent, je sais qu'ils crient quand ils vont voir Johnny et qu'ils font silence quand ils viennent me voir.
Ils ne tapent pas encore des mains.
Ils tapent des mains d'une façon différente, parce que moi je ne suis pas quelqu'un pour... Vous comprenez, je ne sais pas. Et puis enfin, il y a une espèce de respect qui fait que je suis quand même quelqu'un de beaucoup plus âgé que ces enfants-là, et que ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est le même public, mais qui vient sous deux angles différents.
Ça fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même, vous en souvenez-vous, à nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Eh bien voilà, c'est avec Barbara qu'on va se quitter. Mes acolytes sont toujours Guillaume Maury et Julien Pichenet, Guillaume Vassot à la réalisation. La suite de notre visite privée dans l'année 1966 dans le quatrième épisode dont Delatte raconte une année.
Retrouvez On Delatte raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.